Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Pierre Ouverte. Dans le précédent, nous avions évoqué les raisons pour lesquelles nous arrivions au début du XVIIe siècle à des révoltes, en montrant que cette ferveur n'était pas seulement populaire, mais qu'elle venait aussi de la noblesse. Enfin, nous avions évoqué succinctement qu'elles étaient également dues à une augmentation de la fiscalité induite par la mise en place de la monarchie absolue. Faisons un petit point sur la fiscalité d'Ancien Régime. Les impôts à l'époque moderne sont perçus principalement par trois entités, le seigneur, l'église et le roi. Le seigneur, en tant que propriétaire terrien, perçoit des droits liés à la seigneurie foncière. Sont dus en échange de l'exploitation des terres, le cens et le champart, aussi nommés terrage, agrier, gerbage ou tasque. Ensuite, il perçoit des droits de mutation qui sont versés lors de ventes, droits de relief, lots et ventes. En plus de ses redevances, le peuple doit à son seigneur des banalités. Il peut ainsi faire payer l'usage des installations du domaine, comme le moulin, le four ou le pressoir. Ces banalités impliquent aussi la perception de taxes sur les marchandises, transitant ou étant vendues dans la seigneurie. Péage, tonlieu, octroi, banvin ou sur les espaces de la seigneurie, glandage et panage. En ville, les seigneurs perçoivent la taille et de nombreux impôts indirects. L'Église est le deuxième percepteur d'impôts sous l'Ancien Régime. Le principal de ces impôts est la dîme censée couvrir les dépenses du clergé séculier dans le cadre de leur ministère. Le casuel est le second impôt prélevé par l'Église. Il s'agit d'une redevance perçue par le curé pour la célébration des sacrements. Au sein du clergé, des prélèvements ont cours entre les différentes entités. La principale est la décime, prélevée au niveau diocésain. Les évêques ont aussi mis en place des prélèvements sur les cures de leur diocèse, appelées taxes synodales et en sens épiscopal. Enfin, la papauté est également percepteur des anates, du subside caritatif, du sens pontifical et de procuration et de décime. Contrairement à l'Église, les impôts royaux n'apparaissent qu'au XIIe siècle. Ils sont un ensemble complexe de taxations directes et indirectes. Les plus anciens sont les aides portant sur le transport et la vente de denrées. Second impôt indirect, la gabelle, perçue sur la consommation du sel, denrée indispensable à la conservation des aliments. Au départ, il s'agissait du contrôle sur les ventes et ça devient ensuite un prélèvement sur chacune d'entre elles. Perçoit aussi des traites ou foraines sur les marchandises rentrant ou sortant d'un territoire, ainsi que l'octroi sur les entrées des marchandises en ville. Enfin, le dernier impôt indirect perçu par la royauté est imposé sur les ventes de tabac, qui finit par être un monopole de l'État en 1674. Pour ce qui est des impôts directs, le roi perçoit la taille royale et ses taxes supplémentaires dites accessoires. Le taillon, les deux sols, la solde des maréchaussées, le fonds des étapes, le brevet militaire entre autres. À partir de 1695 est mise en place la capitation destinée à la finance de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, qui devient finalement un impôt définitif. Enfin, le dixième est instauré en 1710, pesant sur les revenus de toutes les propriétés. Il est vite aboli, 7 ans plus tard, et remplacé en 1725 par le cinquantième, qui à son tour est un échec. Quelques années plus tard est mis en place le vingtième, destiné à être universel, auquel le clergé et les États se soustraient une nouvelle fois. Seuls les nobles ne peuvent y échapper. Il est doublé en 1751, puis triplé quelques années plus tard. Enfin, le pouvoir royal impose à l'Église le paiement de contributions, bien que le pouvoir religieux parvienne à s'y soustraire assez régulièrement. Cela a pris la forme de dîmes saladines, destinées au financement de la croisade, de décimes, de dons gratuits, dont les montants sont négociés entre les prélats et le souverain. Le poids de l'ensemble de cette fiscalité a donc créé des tensions multiples au cours de l'histoire qui peuvent se manifester par des révoltes du tiers-État, premier ordre à supporter ce poids. La première de ces révoltes, que l'on dit de croquant, a lieu entre 1593 et 1595. À partir de la vicomté de Turenne, elle se répand en Périgord. En pleine guerre de religion, les croquants rejoignent le camp royaliste qui les expose à un combat contre la noblesse locale. Ils sont massacrés en juin 1594 et abandonnent jusqu'en 1595, où ils reprennent la rébellion qui aboutit aux batailles de Saint-Crépin-d'Auberoche et de Condat-sur-Vézère. En même temps, en Guyenne, une insurrection gronde menée par des notables royalistes catholiques, modérés ou protestants, partisans d'Henri de Navarre. Les revendications sont fiscales et s'adressent aux villes et aux chefs ligueurs. Ces croquants sont attaqués et la rébellion est matée par les troupes royalistes. D'autres rébellions similaires ont lieu en Bourgogne, où les vignerons expriment leur mécontentement. En 1624, le Quercy se révolte une nouvelle fois. quand l'annulation de l'exemption de Gabel est annoncée. Entre 5000 et 16000 hommes s'arment de bâtons, d'outils et parfois de fusils et se lancent dans une entreprise visant à détruire les propriétés et récoltes des collecteurs d'impôts. L'armée de Richelieu, commandée par Ponce de Lozière, Thémines, disperse la foule à Cahors. Les chefs sont arrêtés et exécutés. Doit est écartelé le 8 juin 1624 à Figeac, Barreau est pendu à Gramat le 10 juin. 10 années plus tard, des émeutes éclatent en Guyenne en 1635 liées à la taxation des cabaretiers imposée sur le vin et sur les taux de taille trop importantes. La révolte réclame également la mise en place d'une dîme qui profiterait aux petits curés et non aux clergés. Elle se concentre dans de petites villes, ce qui est un moyen de démarquer du pouvoir centralisateur. En 1636, des soulèvements ont lieu dans l'Angoumois et en Périgord. L'an suivant, la mode de la forêt, un gentilhomme en prend la tête. C'est le début d'une véritable guerre civile déclenchée par les paysans. Le roi envoie le duc de la Valette, qui vient avec 3000 hommes mettre fin à la révolte le 1er juin 1637 avec la bataille de la Sauvetat du Drôme. Un millier de croquants périssent, une amnistie est accordée. Dès l'an suivant, Pierre Gréletti prend la relève et poursuit la révolte. Elle s'achève en 1642 dans une nouvelle amnistie donnée par Richelieu, occupée par la guerre d'Espagne. À la mort de Louis XIII, les paysans du Rouergue menés par Bernard Calmel dit Lafouque investissent Marcillac et se rendent avec 1200 hommes à Villefranche de Rouergue. Ils s'allient à Jean Petit et Guillaume Brasse pour obliger l'intendant de Charenton à signer deux ordonnances, la première déchargeant du paiement de la taille pour le Rouergue et l'autre ramenant à des taux moins élevés. Après cette victoire, les croquants font le siège de Villefranche de Rouergue où ils sont défaits. Deux des meneurs, Jean Petit et Guillaume Bras, sont arrêtés et roués vifs. Seul Lafouque parvient à s'échapper et se replie à Najac. Le comte de Noailles et les troupes que lui a confiées Mazarin reprend la ville et Lafouque et deux de ses maréchaux sont arrêtés et roués. Sa tête sera mise sur une pique et ramenée sur la tour de Martillac d'où était partie la révolte. La dernière de ces grandes révoltes est celle des Taravisés en 1707. La dernière des grandes révoltes est celle des Tarsavisés en 1707 que nous évoquerons dans une prochaine émission.